passe très vite aux personnes qui vont introduire la journée. Vous venez d'entendre un podcast qui a été enregistré par certains élèves du Master d'ingénierie culturelle de Lucie Marinier et que vous pouvez retrouver dans la chambre sonore au rez-de-chaussée de la Gaîté Lyrique pendant les pauses et à la fin de la journée. Et qui n'est pas dans le programme et que je me permets donc de présenter tout de suite, nous avons ici Laetitia Gianella, qui elle aussi fait partie des étudiants de Lucie Marinier et qui va nous faire une facilitation graphique qui s'est rajoutée à toute dernière minute et que vous n'avez donc pas dans votre programme. Je vais inviter tout de suite nos premiers intervenants à prendre la parole. Et nous avons donc ici avec nous Jean-Yves Catel, le directeur général adjoint de la Gaîté Lyrique, qui va faire le mot d'accueil.
Bonjour tout le monde, bienvenue à la Gaîté Lyrique. Nous sommes ravis de vous accueillir et que se tienne ici la première des deux journées de ce programme qui entre pleinement dans le projet de la Fabrique de l'époque. Quelques mots déjà pour vous présenter le lieu pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc, un établissement de longue date, puisqu'il a ouvert premièrement à la fin du 19e siècle, en 1862, sous la forme d'un lieu d'opérette, de théâtre, puis il est devenu aussi également école de cirque. Une première grande transformation a eu lieu dans les années 80, ce qui explique qu'il n'y a plus le théâtre à l'italienne tel qu'on a pu le connaître avant, pour devenir un parc d'attractions intramuros. Et je vous invite, il y a une fresque dessinée dans le hall d'entrée pour comprendre un peu l'histoire du lieu. Et ensuite, une nouvelle transformation pour le lieu tel que vous le découvrez aujourd'hui. Donc un lieu qui est animé par le projet de la Fabrique de l'époque depuis 2023. Donc c'est un projet qui est porté par cinq grands partenaires, le média européen Arte, l'association artistique et culturelle Artifarti, qui organise les nuits sonores et qui exploite également le sucre à Lyon. L'association Make Sense, qui accompagne les entreprises pour plus d'écologie et d'inclusivité. L'ONG Singa, qui accueille les nouveaux arrivants. Et la maison d'édition Actes Sud. Le projet se déploie sur trois piliers. Donc, le premier, c'est d'être un lieu de fête et d'engagement, qui est souvent la première entrée dans le lieu à travers toute sa programmation de festivals, de concerts. On aura notamment le festival Anticipation la semaine prochaine. Être un lieu du quotidien également, qui est ouvert donc, tous les jours, du mardi au dimanche, et dans lequel il y a des rencontres, des débats, des projections tous les jours. Et également un lieu d'amplification avec un programme de résidence et d'incubation. Et donc depuis 2025, particulièrement, on a retrouvé pleinement le projet avec les enjeux écologiques et d'inclusion qui sont centraux. Et nous sommes d'ailleurs actuellement dans un séminaire pour mesurer l'impact écologique et social de notre activité. Donc nous sommes ravis de faire partie de ce programme et de la dynamique qui a été amorcée par l'ICAR et le CNAM, partenaires avec qui nous travaillons depuis longtemps et qui est une association importante pour notre établissement. Et je vous souhaite une excellente après-midi et je passe la parole à Sylvain.
Merci beaucoup. Il y a quelque chose à projeter ou pas?
C'est comme tu veux.
Eh ben, on va voir si j'ai pas tout à fait la même version, mais je me mets là du coup.
C'est comme tu veux. C'est
quand même qu'il y ait trois diapos. Mais...
Oui, mais je me branche. Oui. Ah, ben ok. Si tu en as envie.
Ça va pas tout casser.
Petite improvisation technique.
Bah, exactement, mais normalement. Donc il me faut juste un câble HDMI. Voilà. Alors évidemment. Tout l'écran. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Solveig Serre, je suis directrice de recherche au CNRS. Je suis historienne et musicologue. Dans ma vie de chercheur, je travaille sur l'histoire des contre-cultures musicales de la France contemporaine, donc sur l'histoire de la scène punk précisément. Et mais c'est pas là, malheureusement, c'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici aujourd'hui parce que depuis 4 ans, je porte un programme de recherche de nature un peu particulière qui s'appelle PEPR-ICAR en langage administratif Et donc, c'est de ça dont je suis venue parler aujourd'hui. Ça rompt un peu la magie du podcast, hein, cette diapo. Alors, le 12 octobre 2021, à l'Élysée, le président de la République annonce France 2030, un plan d'investissement d'avenir de 54 milliards d'euros sur 5 ans. Ce plan vise à accélérer la transformation des secteurs clés de l'économie française par l'innovation et à positionner la France en leader du monde de demain. Je cite. Hein. France 2030 repose sur des stratégies d'accélération industrielle, des SNA, qui ont pour objectif d'identifier les principaux enjeux de transition socio-économique de demain et d'y investir de façon exceptionnelle et massive dans une approche globale. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que via un organisme qui s'appelle le Secrétariat Général pour l'Investissement, le SGPI, des grosses sommes d'argent vont être posées sur des priorités industrielles. Alors, ou pour réindustrialiser des objets qui ne le sont plus, dont on n'a plus les technologies en France, ou plutôt pour industrie culturelle et créative, tout ce qui est soft power, etc. Donc, vous voyez, il y a une trentaine, je ne les ai pas toutes mises, de stratégies nationales d'accélération. J'en cite quelques-unes. Hydrogène décarboné, produits biosourcés, cloud, 5G, alimentation durable. Et au milieu, il y en a une qui est consacrée aux industries culturelles et créatives. Donc c'est vraiment par le biais de l'industrie qu'on rentre au secrétariat général pour l'investissement. Toutes ces stratégies ont un volet de recherche qui s'appelle PEPR et qui est confié à l'organisme de recherche jugé le plus compétent pour s'en occuper. Donc on dit que ça va être le commissariat à l'énergie atomique, etc. etc. Et dans le cas d'industrie culturelle et créative, c'est le CNRS qui va obtenir le portage du projet. Donc tout ça pour dire que le PEPR ICAR est le volet de recherche de la stratégie d'accélération industrielle consacrée aux industries culturelles et créatives. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que c'est pour nous, communauté de recherche, un nouveau genre de recherche, c'est-à-dire que d'habitude, on a la liberté de travailler sur les objets qu'on veut. Et là, c'est assez différent parce que c'est l'État qui passe une commande, une lettre de mission, au CNRS et qui lui fixe son objet de recherche. Et l'objet de recherche, c'est... Alors, ça a été un peu remanié parce que la porteuse n'a pas toujours bon caractère et a beaucoup négocié. Le PEPR a pour vocation d'accompagner, par la recherche en sciences humaines et sociales et en sciences informatiques, la filière ICC dans sa transformation et adaptation aux grands enjeux numériques, économiques, sociaux et de transition de demain. Au début, c'était faire de la brique numérique. Ah ben, j'ai dit, oui, mais dans ce cas-là, moi, je ne sers à rien, en fait. Je fais des sciences humaines et sociales. Et donc, on a un peu augmenté la mission et on l'a positionnée sur des enjeux qui, me et nous, parce qu'on est deux à porter, semblaient un peu plus importants. Donc, c'est le CNRS qui porte, particulièrement deux instituts. Alors, on est divisé en 10 instituts au CNRS, c'est des instituts thématiques. Donc les deux instituts concernés sont sciences humaines et sociales et sciences informatiques, justement au titre du numérique. La cible, c'est évidemment pas que le CNRS, hein, c'est tous les collègues de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que les écoles d'art et d'architecture du ministère de la Culture, ce qui est une petite difficulté institutionnelle parce que les ministères ne s'entendent pas très bien, et en vertu de la lettre de mission, évidemment, les professionnels des industries culturelles et créatives. Alors, entendu au sens le plus large du terme, ça va de, pour prendre la musique que je connais bien, de l'artiste qui joue de la guitare tout seul à la grande major universelle, ce qui est une autre complexité, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on est deux en situation de pilotage. Moi, je suis responsable plutôt du côté sciences humaines et sociales, et David Coeur-Joly, mon collègue qui est directeur de recherche au CNRS, s'occupe de tout le volet sciences informatiques. Bon, les partenaires, j'en parle pas, c'est hyper technique, ça n'intéresse personne ici. Le montant du programme, il est de 25 millions d'euros sur une durée de 6 ans qui, en réalité, va être portée à presque 9 ans parce que les délais de contractualisation de l'État sont assez longs. Donc la lettre de mission a été envoyée en mars 22. On a contractualisé au printemps 24 et le début effectif a eu lieu en juin 24 avec un démarrage scientifique à l'automne 25 et une montée en puissance en janvier 25. Donc on est un relativement jeune programme, contrairement à notre date de naissance. Alors la stratégie du programme, l'État considérait que en fait, tout le monde se parlait joyeusement, travaillait joyeusement ensemble depuis très longtemps, et en réalité, Ce qu'on savait avec David, c'est que personne ne se parlait. C'est-à-dire que les communautés entre elles, sciences humaines ou sociales, sciences informatiques, dialoguent difficilement, parce que l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui est difficile. Hein. L'élaboration du langage commun, ça prend beaucoup de temps. Et par ailleurs, le dialogue entre les professionnels et la recherche n'est pas toujours facile. Soit parce qu'on n'a pas les mêmes temporalités, souvent les professionnels ont besoin de réponses rapides, là où nous, il nous faut quand même le temps moyen long de la recherche pour élaborer une pensée à peu près cohérente. Et par ailleurs, il y avait aussi une méconnaissance, alors des deux côtés, soit que mes collègues n'aient pas du tout envie de travailler avec et pour et de co-construire, soit que les professionnels ne comprennent absolument pas ce à quoi peut servir un chercheur. Donc David et moi, on a rabaissé la mission et on a dit qu'on aurait réussi ICAR si on arrivait en 6 ans à constituer un espace de rencontre et de dialogue entre les communautés de recherche et les communautés professionnelles. Et c'est ce qu'on a appelé, avec un peu d'humour, la SAPIC, la science avec et pour les industries culturelles et créatives, en reprenant les modèles de qui sont très travaillés chez nous depuis quelques années, ce qu'on appelle la science avec et pour les sociétés, la SAPS. Ça va, vous suivez toujours, je ne vous ai pas perdu.
ICC,
mais pardon, Industrie culturelle et créative. C'est le seul acronyme que je n'avais pas dit, je suis désolée. Alors, pourquoi je vous ai mis cette diapo? C'est justement que le cœur stratégique du programme, c'est l'organisation de rencontres, une 60aine par an, donc c'est très très conséquent, en France et en Outre-mer, enfin c'est la France aussi, mais on ne reste pas que sur le territoire, et surtout pas que à Paris, sur tous les sujets qui traite des questions d'industrie culturelle et créative. Et le but de ces journées, alors aujourd'hui c'est un peu différent, Lucien va en parler, mais c'est les professionnels ont un besoin, ils nous sollicitent, il y a une question de recherche évidemment, sinon on n'est pas là, et on décide de travailler cette question au cours de journées d'accélération. Donc d'habitude chez nous dans la recherche, les journées d'études c'est plutôt une restitution de notre travail, là c'est plutôt le début en réalité du travail. Et derrière, en fonction de ce qui a marché ou pas marché, une fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a dialogué, tous les mécanismes du financement du PEPR, et on va voir tout à l'heure, enfin demain, je ne sais plus quel jour, mais des petits projets qu'on a financés, rentrent dans le cadre de ces discussions et de ces dialogues qui ont été créés lors des journées. Deux caractéristiques pour ces journées, alors ça sera le cas d'ailleurs les deux fois, aucune ne doit se tenir dans des espaces académiques. Je l'ai écrit dans le document de cadrage parce que, pour plein de raisons, moi je trouve que c'est un espace assez excluant. Et d'autre part, ces journées doivent, en tout cas ont vocation, à intégrer des performances, des choses en lien avec la journée qui fassent sens, évidemment, avec la thématique des journées. Voilà, ça c'est pour montrer, mais ça c'était pas vraiment pour vous la diapo, qu'on sort beaucoup dans l'ICAR, qu'on va dans des espaces qui changent un peu. Et ça c'est pour illustrer les performances. Alors, parmi les dispositifs de financement dont dispose ICAR, et de moins en moins, parce qu'évidemment il faut lancer tout ça pour que les collègues aient le temps de travailler, on a ce qu'on appelle des petits projets à 20 000 euros qui permettent, dont l'idée est de faire de l'amorçage de plus gros projets ou de tout bêtement de développer un petit projet. On avait de l'accompagnement, on en a toujours d'ailleurs, de l'accompagnement doctoral pour environner des jeunes qui sont inscrits ailleurs que chez nous en thèse, mais dont les thématiques de recherche approchent la thématique d'ICAR. Des contrats doctoraux, on en avait 9, c'est pas énorme, mais c'était déjà le maximum. On les a tous pourvus. Et normal, il faut qu'ils travaillent en 3 ans. Et une amorce au dépôt de projets européens et français. Alors à la fois que ça concerne aussi bien les chercheurs que les professionnels, on est très fortement incité, évidemment il n'y a plus de sous nulle part, à aller à l'Europe chercher de l'argent, et c'est encore plus compliqué parce que là il faut rentrer en contact avec des collègues européens et c'est pas toujours facile, d'autant que le programme ICAR, comme c'est un programme national, enfin français, n'a aucune vocation internationale, donc il y a une petite difficulté aussi là-dessus. Bon, ça je vous épargne ça. Alors je terminerai juste peut-être par, je vais vous épargner la structuration d'ICAR qui est assez complexe. Les secteurs visés sont extrêmement vastes, donc ça concerne les arts visuels, l'audiovisuel, le design et l'architecture, l'édition, les jeux vidéo, les métiers d'art et de mode, les musées et patrimoine, la musique, le spectacle vivant et les arts de vivre. Et par-dessus, nous avons placé des référents, alors le nombre est exponentiel, mais il y en a qui sont là depuis l'origine, si c'est le cas. On a une référente recherche-création, une référente transition, on peut dire comme ça, le mot est exact, un référent entrepreneuriat, une référente prospective, une référente éthique, et après des référents mais plus techniques liés à des équipements qu'on a chez nous. ICAR fonctionne donc avec trois gros blocs. Le premier bloc, c'est ce qu'on appelle ICAR Lab. En réalité, c'est tout le travail qui est mené avec les professionnels et la recherche par secteur. Donc c'était facile parce que les thématiques des industries culturelles et créatives souvent recoupent nos propres thématiques de recherche. Quand on est musicologue, on travaille sur la musique ou sur le spectacle vivant, enfin, etc. Et donc c'est une cellule qui est extrêmement importante. En responsabilité de chacun des secteurs est placé un professionnel, un chercheur en sciences humaines ou sociales et un chercheur en informatique. On arrive quand même à 60 personnes, donc c'est une grosse cellule de réflexion qui est aussi censée être le point d'ancrage vers tout le réseau et le point d'ancrage d'organisation aussi des journées. À côté, on a 6 projets, donc Harmonie, Thémis, Eupraxie, Dédal, Styx et Comet, qui eux sont des projets thématiques, donc intersectoriels par vocation évidemment. Donc je vous les lis pour que vous voyez le spectre. Alors évidemment, ça correspond aussi à des demandes très fortes de l'État. Créer, diffuser et produire à l'heure de l'intelligence artificielle et des technologies immersives, toucher les publics, surmonter les crises, bien-être, démocratie, résilience et j'ajouterai citoyenneté, alternatives culturelles et créatives, donc ça c'est les signaux faibles, et 2 projets métavers, c'était une commande de l'État mais qui a tellement traîné que le métavers n'existait plus, enfin les collègues se sont arrachés les cheveux. Donc on a gardé métavers, les mondes infinis du métavers pour en faire quoi? Ça, c'est plutôt économique et juridique. On va dire que c'est toutes les expériences immersives, IA, etc. Et conception et usage des univers métaversiques, pardon. Ça, c'est plutôt expérientiel pour les collègues. C'est tout ce qui est réalité virtuelle, augmentée, haptique, tridimensionnelle, qui tourne sur des plateformes de haute technologie qu'on a dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et pour finir, les petits nouveaux, dont on ne sait pas quand ils vont arriver. Enfin, tout ça est un bazar géant. C'est pas de notre faute. Hein. En fait, ça fait tellement de temps que ça traîne. Et puis, donc l'idée là, c'est de faire. Il reste 5 millions. Normalement, on nous a juré qu'on n'y toucherait pas. Qui est fait pour faire remonter 5 projets. Donc, ils sont en train d'être sélectionnés via un mécanisme un peu complexe. On a 12 propositions. On a fait remonter 12 projets. Et 5 vont être financés in fine. Je peux dire il y en a un sur transition, 2 même, il y en a 2 sur transition, et on a fait en sorte que ces projets complètent les trous de la raquette d'ICAR afin qu'on ait couvert encore plus d'aspects qu'on n'aurait pas couvert immédiatement. Voilà, le but évidemment de tout ça, c'est qu'on, et ça marche plutôt bien en fait, c'est le dialogue transversal à la fois entre les thématiques, entre les secteurs. Je devrais rajouter à ce schéma qui est déjà vieux, et évidemment les référents. Voilà, c'est l'idée, c'est qu'on travaille de plus en plus les questions de manière transverse, intersectorielle, pour qu'on sorte aussi du silo des secteurs et vraiment travailler l'intégralité de la filière industrie culturelle et créative. Alors, les outils communs du programme, et je terminerai par là. Donc, nous avons un site internet sur lequel je vous encourage à aller, qui comporte toute la mémoire du projet, toutes les captations sonores des journées, les publications, il y a absolument tout ce qu'on y fait. Je vous invite aussi à vous inscrire sur la plateforme de rencontre Ariane, le Tinder, comme l'appelle le coordinateur à Matignon, ça lui plaît beaucoup. Donc l'idée, c'est qu'on n'avait pas de cartographie. Et c'est hyper gênant de ne pas avoir de cartographie quand on porte un projet de cette ampleur. Donc on a décidé, c'est très facile de s'inscrire, vous vous loguez si vous êtes chercheur selon les mots-clés de l'Open Research Council, et quand vous êtes professionnel et ICC, juste par secteur industriel, et quand vous rentrez vos petites infos, vous apparaissez sur la carte. Et donc ça sert à quoi? Ça sert d'une part, bon, outre le fait que ça gère nos listes de diffusion, ça permet de voir qui fait quoi sur les territoires. On se rend compte notamment qu'il y a pas mal de clusters. Alors je fais dans le grand cliché, mais beaucoup de communautés qui travaillent de recherche sur le vin et la vigne sont en Avignon par exemple ou à Bordeaux. C'est pas une surprise, mais il y a des thématiques où c'est beaucoup moins évident. Et l'idée, c'était aussi de s'en servir quand on veut faire des projets, d'arriver à trouver la bonne personne, parce que souvent on fonctionne dans les universités, on est dans un labo, dans une équipe, et on ne sait même pas qui est dans l'équipe d'à côté. Alors, dans le labo d'à côté, je ne vous en parle même pas. Donc, il y a des gens qui se sont rencontrés dans la même université grâce à Ariane. Donc, finalement, ça marche plutôt bien. Voilà, ça, c'est 3 petites statistiques qu'on s'est amusé à faire pour chercheurs et professionnels, mais ça montre quand même que l'ensemble de la France est plutôt correctement couverte. Nous avons une chaîne YouTube où nous mettons les petites capsules qui essaient de rendre compte de l'essence de ces journées un peu spéciales, qui sont faites par Voto, ici présent, que vous avez devant. Donc ça, c'est pareil, je vous conseille à regarder, c'est assez beau et assez intéressant. Le LinkedIn, évidemment, du projet qui permet de vous tenir au courant des actualités. Et on publie pas mal et on va être amené à encore plus publier. On fait des lettres trimestrielles. Maintenant, on fait des lettres par projet. Donc, on a sorti la première en mai. Et on va en faire de plus en plus. On va en faire par secteur. Enfin, vous allez voir si ça vous intéresse. Pas mal de littérature qui n'est pas du tout de la littérature scientifique. On va dire que c'est éclairé. Voilà, il n'y a pas de notes de bas de page. Mais en revanche, c'est quand même du scientifique sérieux. Bon, le rapport d'activité. Et j'en terminerai par là. Je remercie beaucoup la Gaîté Lyrique de nous accueillir. Je suis extrêmement contente de venir ici. Et merci à Lucie qui a porté la journée avec ses étudiantes. Et j'en terminerai par un mot pour mon équipe ICAR qui travaille beaucoup trop en ce moment, en particulier en juin. On a une journée par jour quasiment. Hyacinthe, chef de programme, c'est-à-dire chargée de toute la gestion administrative et financière. Marion, qui est la seconde. Voto, donc au son. Taina, là-haut, je ne sais pas où elle est pas là. Elle est à l'accueil, elle est chargée de communication. Et j'ajouterai Maxime, veille et documentation, et Mathilde, chargée de, j'ai oublié, transfert et valorisation. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Sophie. On va jongler avec les câbles HDMI, c'est de l'autre côté. Et pendant ce temps, j'en profite pour introduire Lucie Marinier, qui est donc professeure au Conservatoire National des Arts et Métiers et qui est en charge de cet axe transversal sur la transition écologique au sein du PEPR ICAR.
Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup Solveig, merci Mathieu, monsieur Loyal de cette journée. Donc l'idée c'est que ces journées réunissent donc, dans le cadre du programme de recherche ICAR, chercheurs, chercheuses, artistes, professionnels des institutions, réseaux et politiques culturelles, étudiants, étudiantes, qui sont et vous êtes pour la plupart engagés dans la transition et la redirection écologique de la culture et de la création. On reviendra sur ces deux termes, le premier étant sans doute la première étape du second. Parce que le secteur culturel a un impact écologique, un impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de consommation de ressources, de pollution, d'atteinte à la biodiversité, de production de déchets, parce que c'est la troisième cause de déplacement, et on peut s'en réjouir des Français. Ce sont des milliers de bâtiments, là aussi, grâce à un territoire qui est particulièrement bien équipé, mais qui sont souvent climatisés, qui sont nos communs positifs de la culture et qui menacent désormais de devenir des communs négatifs, parce que ce sont des scénographies lourdes et encore peu réutilisées, et parce que, selon différents calculs, il y a des débats sur ces sujets, c'est jusqu'à 60% des contenus numériques et une bonne partie des usages des appareils connectés qui font notre quotidien. On commence à savoir mesurer cet impact, notamment grâce à des calculateurs, des études spécifiques, et des calculateurs et études qui ont été en grande partie auto-construits par le secteur lui-même. On peut citer sites dans le spectacle vivant, Matrice pour les musiques actuelles et les tournées, Ocre dans les musées, ou Vif sur la biodiversité plus récemment. Et on sait que cet impact est atténuable, on commence à l'atténuer, notamment pour le premier poste qui est, vous le savez tous et toutes, le déplacement des œuvres des artistes et surtout des visiteurs et des spectateurs. Mais c'est aussi un poste qui est largement et de plus en plus rattrapé par les enjeux bâtimentaires et climatiques du fait de l'adaptation aux aléas climatiques qui devient désormais notre réalité quotidienne. Bref, on a un secteur qui a un impact négatif, c'est ce qu'on pourrait appeler le footprint. Mais la question écologique, c'est aussi une question culturelle. Ce serait ce qu'on pourrait appeler son brain print, un secteur qui a l'immense responsabilité de participer à façonner nos imaginaires. Et c'est pour ça qu'on a voulu commencer avec vous par une petite expérience d'écologie de l'attention. Et cette responsabilité culturelle et politique est parfois bien lourde à porter, et elle est largement aujourd'hui en question, et dans la recherche, on aime bien commencer par poser des questions. Avec donc plusieurs axes. Le premier, c'est comment incarner, faire atterrir, comme le disait Bruno Latour, la connaissance de faits scientifiques globaux sur la situation écologique, les risques et leurs conséquences. On peut le faire, en partie ou moins, au moins, par des textes, des sons, des images, c'est-à-dire de la culture. comment appréhender davantage que notre rapport à la nature, au vivant, au non-humain et culturel et donc pourrait évoluer, sans doute par des textes, des sons, des images, encore une fois par de la culture. Comment construire de nouveaux récits, de nouveaux désirs, de nouvelles esthétiques, plus sobres et plus robustes que la consommation toujours plus rapide et boulimique de contenu et d'expériences lointaines, sans doute par d'autres textes, d'autres sons, d'autres images, donc par de la culture. Alors, quelle forme et récit produire pour penser ces crises? Quelle forme face à ces crises qui soient adaptées aux risques? Quelle forme pour rendre désirable la situation nouvelle qui s'ouvre à nous? Quel créateur et création qui serait ceux de la sobriété? Et enfin, et ça c'est aussi le travail des chercheurs et des chercheuses, comment construire ce nouveau patrimoine culturel qui serait celui de la sobriété? Et puis enfin, la question écologique, c'est une question d'ingénierie culturelle qui a trait au comment produire et diffuser. Ce serait, si vous me passez ce nouvel anglicisme, notre « how print », comment faire, comment imprimer. Comment les œuvres et les projets culturels adviennent, existent, parviennent au public. Comment l'ingénierie culturelle peut être éco-responsable, mais même peut-être, avec un peu d'espoir, devenir régénérative, participer à réparer. Or, aujourd'hui, les polycrises écologiques renforcent les injonctions contradictoires du secteur et celles de l'ingénierie culturelle parce que les festivals, les salles, les musées doivent diffuser au plus grand nombre le plus d'œuvres et d'artistes possible dans une perspective mondiale, mais baisser leur bilan carbone, développer la fréquentation mais sans déplacement des visiteurs, développer les lieux et festivals ambitieux mais avec une sobriété bâtimentaire et climatique, avoir des projets d'établissements originaux et uniques mais sans clause d'exclusivité, réunir des ressources propres mais sans méga-concerts, sans expo blockbuster et sans mécènes anti-écologiques. On est un petit peu perdu. Les industries culturelles et créatives doivent gérer ces conflits pour que les œuvres et les projets donc adviennent et parviennent de manière plus éco-responsable à chaque niveau de la chaîne, la création et les contenus, la gestion, la production, la gouvernance, la transmission, la médiation, la communication. Or, le secteur, notre secteur, depuis quelques années, en fait, assez précisément, depuis 2018-2019, comme nous avons pu le montrer dans le cadre de l'étude culture et création en mutation, c'est assez largement mis en route et il a commencé à mesurer cet impact négatif et à le réduire, mais aussi à largement accueillir une création qui parle d'écologie et d'anthropocène, construire des projets communs avec les scientifiques du climat et de la biodiversité, les militants écologistes et écologiques, les chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales, les pouvoirs publics et acteurs des politiques environnementales. Le secteur des industries culturelles et créatives, si vous permettez ce petit passage par une définition, ça aussi on aime bien ça dans la recherche, qu'il s'agisse des écosystèmes à œuvre unique, on pourrait dire le patrimoine, les musées, les arts visuels, le spectacle vivant ou la musique live, ou bien de l'acception auparavant plus stricte des ICC que l'on a longtemps limité au secteur de la diffusion multiple, le livre, le cinéma ou la musique enregistrée, est très structuré. C'est parfois une barrière, mais en l'occurrence, ça peut être une chance, même quand il n'y a pas de branche professionnelle, comme dans les musées ou les arts plastiques. Et c'est sans doute ce qui explique pourquoi les réseaux professionnels se sont très fortement mobilisés sur ces dernières années, de manière assez efficace sur ces sujets, que ce soit l'AFDAS, l'ICOM ou toute une série d'autres réseaux professionnels. Et on a ainsi vu basculer des professions entières qui ont changé leur référentiel de valeur vers des objectifs d'éco-responsabilité. Nous avons pu le montrer l'année dernière à travers notre étude sur les régisseurs d'œuvres dans les musées, qui désormais tirent davantage leur responsabilité du fait d'avoir une empreinte carbone moins importante que d'avoir des caisses climatiques qui traversent l'Atlantique dans des avions cargo. De nouveaux acteurs fédérateurs ont aussi émergé, spécialisés comme Arviva, ainsi que des professionnels de la question écologique dans le secteur culturel, dans mais aussi hors des institutions. Ils sont de plus en plus nombreux, porteurs d'expertise et identifiés. Et puis on a des institutions pionnières qui ont décidé d'innover, souvent à plusieurs. Et enfin, on a divers écosystèmes de l'art écologique qui ont commencé à se structurer et qui réunissent à la fois des figures historiques et des jeunes artistes. Et plusieurs interviendront durant ces deux jours d'ailleurs. Beaucoup de ces initiatives ont intégré de manière innovante des chercheurs et des chercheuses. Et beaucoup de ces initiatives, pas toujours à notre initiative en tant que chercheurs et chercheuses, s'appuie sur des concepts également mobilisés par les sciences humaines et sociales, environnementales en particulier, l'habitabilité, la robustesse, la sobriété, l'écosophie, la notion de commun, pour n'en citer que quelques-uns. Et nombre de ces projets mobilisent les méthodes mêmes de la recherche en SHS, en particulier l'enquête et le protocole de recherche. Nous y reviendrons tout au long de ces journées. Et puis les politiques publiques ont commencé non seulement à soutenir, mais aussi à encourager l'éclosion de modèles de mesure, d'atténuation, d'économie circulaire, de durabilité, de transition en général, en un mot, pour la première étape avant la redirection. Le ministère de la Culture, en premier lieu, à travers le guide d'orientation et d'inspiration, plus récemment, en essayant de proposer un modèle assez nouveau en termes de politique publique, adaptable, pédagogique, progressif, le CACT, dont nous prenons en charge une étude dans le cadre d'ICAR, à la demande du ministère. Permettez-moi cette incise, c'est rare en fait comme processus, le fait de pouvoir avoir un échange libre en tant que chercheur et chercheuse avec le porteur d'une politique et de pouvoir l'étudier alors qu'elle est en train de se faire. Et c'est précieux. C'est précieux pour la recherche et c'est précieux pour les politiques publiques et c'est justement ce qu'un programme de recherche comme ICAR permet. Et c'est aussi dans le plan de relance, avec notamment l'appel à projets alternatives vertes, qu'un véritable effet levier a été proposé. À noter d'ailleurs qu'une grande partie des projets dont il sera question pendant ces deux jours est soutenue dans ce cadre, dans le cadre de ce dispositif Alternatives Vertes, dont la dernière vague, qui était pourtant prévue et qui aurait permis sans doute de développer notamment les enjeux de formation, n'a finalement pas été lancée, ce que l'on ne peut que regretter. D'autant que cette non-poursuite a été alors justifiée par l'urgence de faire porter davantage nos efforts sur les enjeux numériques, dans une opposition assez stérile, que nous nous efforçons justement dans ICAR de dépasser. Nous avons donc vécu un moment, nous vivons encore, un moment de consensus et de mobilisation qui est assez rare. Et le travail se poursuit encore activement, notamment autour des nouveaux enjeux de l'adaptation aux aléas climatiques. Laurence Perilla nous en reparlera. Pourtant aujourd'hui, et de nombreux acteurs nous le disent dans nos enquêtes, le risque est grand que ce mouvement marque le pas. Qu'il marque le pas du fait des injonctions contradictoires dont on a parlé plus haut, mais aussi parce que ces sujets demandent une mise à jour permanente et parfois épuisante, parce qu'on ne sait pas quel sera l'enjeu majeur. Est-ce que c'est la biodiversité? Est-ce que c'est la réaction aux aléas climatiques? Est-ce que c'est les pollutions, etc., etc. Et parce qu'un certain découragement pointe parfois, que les pionniers se sentent un peu seuls, que d'autres questions politiques et citoyennes nous mobilisent ou représentent des dangers, qu'au moment même où les conséquences des polycrises écologiques peuvent désormais être vécues physiquement par chacun et chacune d'entre nous, et non plus un horizon abstrait, parfois l'écologie, ça commence à bien faire. Alors comment relancer le processus? Comment franchir un seuil, celui non seulement d'une atténuation de l'impact, mais d'une redirection des industries culturelles et créatives? Comment réfléchir dans un cadre de sobriété, non seulement subi mais choisi, à ce qui a vraiment de l'importance? Pourra nous toucher collectivement, nous attacher ensemble, sera durable et soutenable. Comment la recherche peut-elle participer avec les professionnels à ces processus? Sans doute en faisant notre métier, que les professionnels de la culture fassent le leur et que nous, avec eux, chercheurs et chercheuses, fassions le nôtre, c'est-à-dire en posant des hypothèses, en réunissant de la donnée, en observant sur le terrain et puis en dessinant des modèles. Et c'est là qu'ICAR, qui est un formidable outil, parce que ce programme est conçu pour travailler pour et avec les ICC, parce qu'il réunit tous les acteurs de l'art et de la culture, parce qu'il envisage à la fois les contenus artistiques et l'ingénierie culturelle, l'ingénierie de leur production, le patrimoine, les écritures contemporaines alternatives, les modèles économiques, la participation des publics et les révolutions technologiques et numériques. Parce qu'enfin, ce programme est conçu pour développer des cartographies, des outils de partage, des innovations et des communautés. C'est un formidable cadre. L'axe transition d'ICAR se construit progressivement avec les petits projets, les thèses, les accompagnements de thèses, dont plusieurs vous seront effectivement présentés en clôture de ces deux jours, mais aussi de nombreuses journées d'accélération qui placent les enjeux des transitions au cœur de leur thématique. Cette thématique, elle est largement partagée par les équipes et membres de la communauté d'ICAR. En fait, j'ai l'immense honneur que la co-direction d'ICAR m'ait proposé au lancement du programme de suivre ces sujets, mais je dois le reconnaître, ils avancent en grande partie tout seuls, parce que la communauté les juge essentiels. Alors donc, comment continuer à développer et structurer la recherche dans le cadre d'ICAR en faveur de la redirection écologique du secteur? D'abord, je le disais, en posant des hypothèses sur ce qui pourrait faciliter cette nouvelle étape de redirection. Nous en avons identifié 3 qui seront développées tout au long de nos journées et nous l'espérons dans les années qui viennent. La première hypothèse, c'est que les politiques publiques innovantes et l'évolution des métiers peuvent être un véritable levier et non seulement un financement. Les politiques publiques pourraient davantage lier ressources et éco-conditionnalité, aide aux projets et entrée de ces questions dans le droit commun, qui est un véritable enjeu, et surtout associer contenu artistique et ingénierie, comme tentent déjà de le faire des programmes comme Résidence verte, porté par la DGCA et auquel ICAR participe également. Il y a aussi les politiques culturelles locales qui doivent désormais, comme le dit Yannick Guin, sans doute notre maître à tous en tant qu'ancienne directrice des affaires culturelles, l'un des premiers directeurs des affaires culturelles de Nantes, désormais ces politiques culturelles doivent se faire par gros temps. Ils ne bénéficient plus du consensus issu de la décentralisation culturelle. Eh bien, ces politiques culturelles locales pourraient aussi explorer de nouvelles directions, construire une nouvelle légitimité partagée, en intégrant des notions des sciences humaines et sociales, comme l'écologie de l'attention. C'est ce dont nous parlera Nicolas Cardoux tout à l'heure. Les métiers et compétences, et donc les formations, mais aussi les modes de gouvernance et de production de projets, semblent aussi évoluer avec de nouvelles fonctions, des nouveaux jeux d'acteurs dans les organisations, des fonctionnements par projets circulaires et coopération, et c'est aussi autant de leviers. Notre deuxième hypothèse, c'est que l'évolution même de la création, de ses contenus, des formes, artistiques et des modes de production pourraient modifier les institutions culturelles elles-mêmes, mais aussi les pratiques culturelles des publics. Nous étudions ainsi, par exemple, comment l'entrée dans les collections des musées des œuvres d'art écologiques peut faire changer le musée lui-même, ses modes de conservation et de diffusion. Comment l'intégration des principes du numérique responsable ou des principes de la low-tech peut transformer la création et la réception, dit autrement, transformer notre conception de l'effet waouh et de la vitesse. Notre troisième hypothèse, c'est que les projets et politiques culturelles pourraient intégrer la notion de co-bénéfice, par exemple entre culture, santé, alimentation et écologie, que de nouvelles coopérations pourraient faire levier, des alliances objectives pour s'adapter et participer à la robustesse écologique de l'ensemble de la société, avec les scientifiques du climat, avec les épidémiologistes sur les enjeux de santé, avec les sociologues sur l'écologie de l'attention, mais aussi avec les communautés et les territoires, en s'appuyant sur des expertises multiples, notamment en termes d'adaptation. Dans quel lieu jouer ou pas? Et bien souvent, les gens qui vivent sur le territoire le savent, en fonction des aléas climatiques qui arrivent. Et ces trois hypothèses sur les leviers possibles de la redirection écologique du secteur impliquent, pour se réaliser, de mobiliser autrement les ressources et les pratiques, notamment du numérique, de la production, de la médiation. C'est de tout cela que ces deux journées vont essayer de parler ensemble, professionnels et chercheurs, en réunissant 4 types d'acteurs et d'intervenants, artistes, chercheurs, professionnels et réseaux. D'abord, par les institutions dans lesquelles, les deux institutions dans lesquelles ces deux journées vont se déployer. D'abord, la Gaîté Lyrique et son directeur délégué, vous le disiez tout à l'heure, et son projet de fabrique de l'époque. Et le Musée de la Chasse et de la Nature et son projet culturel et scientifique résolument tourné vers la place du vivant dans l'art. Ils ne nous prêtent pas simplement une salle. Ils sont partie prenante de nos démarches. Ensuite, vous aurez des communications sur des recherches en cours avec lesquelles ICAR dialogue, notamment celle portée par Diego Landivar, qui nous parlera du projet de recherche sur la redirection écologique qu'il mène avec la Friche de la Belle de Mai ou le Musée Dauphinois. Basile Michel, qui nous parlera de ses recherches sur les initiatives de transition écologique de décroissance, en particulier dans le secteur musical. Jean-François Gégaud, qui nous parlera de la création numérique écosophique, mais aussi, en premier lieu, Samuel Bollendorf, qui nous parlera de son parcours d'artiste, de l'ensemble de son parcours d'artiste photographe en prise avec la visibilisation des enjeux écologiques. Nous aurons aussi des professionnels comme Laurence Perilla, qui nous parlera des nouveaux métiers de la redirection écologique et de l'adaptation aux aléas climatiques. Et puis nous allons avoir des tables rondes, 4, cet après-midi sur les politiques culturelles de la redirection écologique sous l'angle de la coopération, animée par Anne Bessette, qui est une spécialiste des activistes écologiques dans les musées, avec Frédéric Sarr de la DGCA, Solveig Serre d'Arviva, Nicolas Cardoux, le directeur des affaires culturelles de Nantes, et Emma Covo, qui anime le projet VIF sur la prise en compte de la biodiversité dans le secteur du patrimoine et des arts visuels. Demain, on aura une table ronde sur les enjeux de la création en anthropocène, avec la Société des Nouveaux Commanditaires, avec plusieurs artistes, avec Chloé Latour qui nous parlera des projets associant recherche et culture qu'il mène avec Escomposition, et enfin avec Valérie Masson-Delmotte qui est coprésidente du groupe 1 du GIEC, parce que l'enjeu c'est de parler aussi avec les scientifiques du climat. On aura enfin une table ronde sur le numérique et la redirection écologique. Est-ce que c'est un frein ou un accélérateur de la transition et de la redirection? Est-ce que le numérique peut participer à une culture régénérative et non seulement qui atténue son impact? Est-ce que le numérique peut participer à réparer? Avec Jean-François Jégot, Jean-Paul Fourmentreau, Paul Vivien, Anne Le Gall et Camille Pell. Et enfin, parce qu'il n'est pas envisageable pour nous de parler d'art sans les artistes et sans les œuvres, vous avez été accueillis ce matin par le podcast d'écrits écologiques réalisé par les étudiants, mais vous aurez aussi demain la possibilité de visiter l'exposition d'Annette Messager au Musée de la Chasse et de la Nature, une hirondelle ne fait pas le printemps. Et enfin, en clôture de nos journées, à la performance de la compagnie du Singe Debout, qui parle de façon drôlatique et forte des enjeux écologiques. Un immense merci aux étudiants du master, Juliette Simon, Lucille Bernatras, Marina Duval, Mathieu de Schertmann, Sophie Yin pour la réflexion et l'organisation de ces journées, sous l'égide de leur enseignante Faustine Dehan, et à toute l'équipe d'ICAR, évidemment, Solveig et David, qui n'est pas là, mais aussi Taina, Marion, Voto et bien sûr Hyacinthe. Belle journée à tous et toutes, et surtout n'oubliez pas de vous inscrire au fil d'Ariane, parce que nous devons rester ensemble.